Chapitre 26e. Ce jour n'était pas pour moi le jour des serments heureux. Bientôt on saura que je devais encore violer celui-ci. Messieurs, comptez-vous finir ? Dit Madame de Lignolles, impatientée de nous voir parler bas. De quoi donc vous entretenez-vous avec tant de mystère ? De Madame de Mondésir. Madame de Mondésir ? Répéta le vicomte. C'est, reprit la comtesse d'un ton de dépit mêlé d'ironie, c'est une belle inconnue qui doit faire ce soir une visite à Monsieur le Chevalier. Ce matin, elle l'a prévenu par un billet doux. Monsieur de Valbrun, d'un air étonné, répéta encore les derniers mots de la comtesse. Un billet doux. Oui, répondit-elle. Priez monsieur de vous le montrer, vous verrez que c'est très intéressant. Ah, chevalier, faites-moi ce plaisir-là. Je ne fis aucune difficulté de confier à monsieur de Valbrun la lettre de la marquise. Il la lut plusieurs fois avec une attention qui parut mêlée d'inquiétude, puis il me la rendit sans se permettre la moindre réflexion. Mais un instant après, quand nous sortîmes de table, il me tira sans affectation dans l'embrasure d'une fenêtre. « Cette lettre, me dit-il, je devine de qui elle est. Vicomte, vous avez très bien fait de n'en rien dire. Soyez tranquille. Quant à Madame de Mondésir, c'est Madame de B qui... » J'interrompis Monsieur de Valbrun. « Je le crois comme vous. C'est la marquise, c'est elle, assurément. » Le vicomte reprit. « Pendant votre détention, qui aurait pu durer très longtemps, Justine m'a dit 100 fois que Madame de B ne cessait de travailler à votre liberté. Elle a peut-être quelque chose de très intéressant à vous apprendre. Comme vous dites, vicomte, et c'est là, sans doute, le motif de la visite qu'elle me rendra ce soir. Chevalier, je ne suis pas fâché qu'elle vienne chez vous, puisque cette démarche peut vous être utile. Du moins, soyez sage. Songez à Madame de Lignolles. Songez à Sophie. N'allez pas. » La comtesse, qui ne me perdait pas de vue un moment, vint alors nous joindre et mit fin à cette conversation dans laquelle le vicomte et moi nous avions compris, chacun de diverses manières, plusieurs mots susceptibles de plusieurs interprétations. Oui, lecteur, je vous en demande pardon, c'était encore un quiproquo. Cependant, la baronne parlait d'aller à l'opéra. Monsieur de Bellecour, dès qu'il sut que la comtesse n'y accompagnait point Madame de Fontrose, déclara qu'il ne sortirait pas de chez lui. Celle-ci tenta complaisamment tous les moyens de l'écarter, et désolée de le trouver inébranlable, finit par dire qu'elle resterait aussi. D'un autre côté, la comtesse, inquiète, m'assurait tout bas qu'elle ne me quitterait pas de la soirée. « Je serais, disait-elle d'une voix altérée, charmée de connaître cette Madame de Mondésir, si prompte à vous donner des rendez-vous. » Puis, avec beaucoup de douceur, elle ajouta, « N'avez-vous pas d'ailleurs quelque chose à me dire en particulier ?» J'avoue que la jalousie de Madame de Lignolles et sa tendre vivacité me jetaient dans une perplexité fort étrange. Sans doute je me livrais avec transport à l'espoir charmant que me donnait cette question si polie. N'avez-vous pas d'ailleurs quelque chose à me dire en particulier ? Mais aussi flatté d'une espérance plus douce encore, persuadé que, sous un nom supposé, Madame de B, dans un quart d'heure peut-être, serait dans l'appartement du chevalier de Florville, je me demandais quel intérêt si pressant la ramenait chez moi si vite, et quelquefois j'osais me dire que l'amour, justement offensé des résolutions violentes qu'elle avait prises à ce fatal village d'Olris, mettrait sa gloire à me rendre ici plus faible que jamais. Je pris un parti que je croyais bon. Je saisis, pour m'échapper du salon, un instant où la comtesse causait avec la baronne. Je courus à mon appartement, j'appelai mon domestique. « Écoute, Jasmin, va te mettre en sentinelle à la porte de la rue. Une dame viendra bientôt qui demandera le chevalier de Florville. Tu la prieras de te suivre bien poliment, mon ami, car c'est une grande dame. À la faveur de la nuit, vous passerez sans que le Suisse vous voie. Vous traverserez la cour et vous monterez par l'escalier dérobé. Cette dame voudra bien attendre dans mon appartement. Tu les laisseras sans lumière, parce qu'il ne faut pas que des fenêtres du baron on puisse s'apercevoir qu'il y a quelqu'un chez moi. Tu m'entends bien ?
Oui, monsieur le chevalier.
Attends donc, ce n'est pas tout. Au lieu de venir m'avertir chez le baron, tu descendras dans la cour et tu joueras sur ton méchant violon cet air que tu écorches si bien, tandis que tout sommeille. Quand tu croiras que j'ai dû t'entendre, tu remonteras ici,
où tu attendras mes derniers ordres. As-tu bien compris tout cela ?
Oui, monsieur.
Tu ne veux pas que je répète ?
Non, monsieur.
Et vous allez être obéi de point en point. Oh, que je suis aise de vous revoir.
Je le disais bien, que quand mon jeune maître serait de retour, l'amour et les plaisirs repasseraient dans mon antichambre.
Tu oubliais les petits profits, Jasmin. Prends cela, car j'aime les gens qui ont de l'intelligence.
Je n'avais quitté la comtesse qu'une minute, et déjà pourtant elle demandait qu'un domestique allât voir où je pouvais être. Il y avait une bonne heure que j'attendais près d'elle le signal convenu quand Jasmin le donna. Mon bon Jasmin raclait comme un ménétrier de la foire. Mais c'est ici surtout que vous admirerez l'empire de mon imagination sur mes sens. Au premier crin-crin du violon criard, je crus entendre sous les doigts de mon laquais résonner l'harpe du roi prophète ou, vous l'aimerez mieux peut-être, la lyre d'Amphion. Jamais notre Amphion moderne, Viotti, dans ses plus beaux jours, ne tirera de son instrument des sons plus enchanteurs. Heureusement, l'enthousiasme ne me transporta pas au point de me faire oublier l'heureux moment qui m'était annoncé. Je me penchai à l'oreille de la comtesse et d'un air empressé.
« Quand donc permettrez-vous que je vous entretienne sans témoin ?»«
Le plus tôt possible, » répondit-elle naïvement.
« Il ne s'agit que de trouver un moyen de nous échapper.
J'y vais rêver. »
Tâchez aussi d'imaginer quelque expédient, mais...
Tenez.
Oui, oui, laissez-moi faire, monsieur, dit-elle à mon père. La baronne m'a dit que vous aimiez le tric-trac.
Oui, madame.
J'y suis passablement forte, monsieur.
Voulez-vous en faire une partie, madame ?
Volontiers.
Qui demeura très étonné, ce fut moi. Jouer avec mon père, quand il s'agissait de me donner un tête-à-tête, cela me paraissait une gaucherie dont je me consolais par réflexion. Car si l'amant de la comtesse devait souffrir, l'ami de la marquise en pourrait profiter. Oui, je croyais que j'allais m'évader sans que Madame de Lignol elle-même y prît garde. Mais je me trompais. La petite personne avait les yeux ouverts sur moi. Elle m'appela près d'elle, me força de m'asseoir et ne me permit sous aucun prétexte de quitter ma place. Il y avait une demi-heure que cela durait. Je commençais à m'ennuyer fort. Et la marquise apparemment s'ennuyait aussi, puisque Jasmin recommença son solo. Mon cher confident craignait peut-être que je ne l'eusse pas d'abord entendu, car cette fois il faisait un tapage d'enfer. On conçoit combien ce pressant carillon devait augmenter mon impatience. Je me sentais comme piqué de 100 000 épingles, et, voyez quelle ingratitude, la lyre d'Amphion ne me semblait plus qu'une cornemuse. Le baron, qui dans ce moment faisait une école, ne trouva pas non plus cette musique fort mélodieuse. Il courut à la fenêtre qu'il ouvrit et demanda quel était le maudit racleur qui lui écorchait ainsi les oreilles.
« C'est moi, » répondit aussitôt Jasmin, sensible au compliment. « C'est moi. »«
Ayez la complaisance de ne pas m'étourdir ainsi, » lui dit le baron. « Et moi, bon fils, par égard pour mon père qui s'enrhumait et s'époumonnait à la fenêtre, je criai de toutes mes forces.
« Finissez, Jasmin, vous faites du bruit !» On vous entend dans le salon comme si vous y étiez. Finissez, tout à l'heure. Entendez-vous ?
Oui, oui, monsieur, voilà qui est dit, je vous entends à merveille.
Touché de mon attention, le baron se remit au jeu d'un air satisfait. L'étourdie comtesse perdit bientôt ses avantages et la partie. Un mal de tête tout à coup survenu lui fournit le prétexte de refuser sa revanche, qu'elle prit à la baronne de prendre pour elle. La comtesse, aussitôt que Madame de Fonrose se fut mise à sa place, me joignit dans un coin du salon et me demanda tout bas si l'escalier était éclairé.
« Oui, ma jolie petite élève.
En ce cas, je vous suis.
Tout de suite ?»«
Oui, mon cher ami.
Quelle imprudence. Gardez-vous-en bien.
Parce que ?»«
Parce qu'il est impossible que nous quittions la compagnie tous deux en même temps. »«
Bon.
Impossible. Cela serait manqué, vous vous perdriez.
Je vais monter. » On pourra me croire occupé chez moi, et dans une bonne demi-heure.
Une demi-heure ? Oh, c'est trop long.
Il le faut absolument.
Quoi ? Je vais me morfondre ici une demi-heure ?
Le temps ne me paraîtra pas plus court qu'à vous, jolie comtesse. Mais en vérité, faire autrement, ce serait nous conduire comme deux enfants.
Voyez, le baron s'est déjà retourné plusieurs fois. Il nous observe, il s'inquiète.
Le baron,
est-ce que nos affaires le regardent ?
Il croit pouvoir se mêler des miennes, parce que je suis son fils. Que voulez-vous ? Presque tous les pères et les mères ont cette ridicule prétention-là. »
Jasmin n'osait plus jouer du violon, mais je l'entendais, comme un chanteur français, brailler à tue-tête, tandis que tout sommeille.
« Ma charmante amie, je pars, je vous attends dans ma chambre à coucher. »«
Non pas, dans le boudoir. »«
Pourquoi ?»« Parce qu'il est plus joli, plus commode. »«
Cependant,
dans le boudoir, monsieur, je veux que ce soit dans le boudoir. »«
Mais je le veux. » »«
Il faut donc vous obéir. »«
Ah ça, gardez-vous bien de venir avant une demi-heure. »«
Oui. »« Vous me le promettez. »«
Oui, oui, oui. »
Je m'élançai comme un trait.
« Jasmin, sors d'ici, ferme les portes, et va-t'en en bas de l'escalier dérobé attendre cette dame qui ne tardera pas à redescendre.
Tu l'as amenée sans qu'on la vit ?
Oui, monsieur.
Tu la reconduiras avec les mêmes précautions.
Où est-elle ?
Ah, monsieur, que vous êtes heureux, la jolie femme.
Dis donc, où est-elle ?
Monsieur, nous sommes entrés dans le cabinet de toilette.
Après ?
Vous ne me donnez pas le temps, monsieur. Elle a vu le boudoir et n'a pas voulu aller plus loin.
Je l'ai laissée sans lumière, comme vous me l'avez dit.
Bon, éteins encore celle-ci, je n'en ai plus besoin. Va-t'en et ferme les portes sur toi.
Ferme les portes sur toi. La belle précaution étourdie. Ne m'être pas souvenu que la comtesse était emparée de ma seconde clé.
Plein d'une sécurité fatale, je traversai l'appartement de ma femme aussi vite que le permit la profonde obscurité qui m'environnait, et j'entrai dans l'heureux boudoir.
Chère maman,
tendre ami, c'est donc ici que vous êtes.
Le chevalier de Florville a donc le bonheur de vous posséder chez lui ?
D'une voix étouffée, elle répondit :
Oui.
Que je vous dois de tendresse et de reconnaissance, que je vous aime, que je vous remercie.
Tout en lui parlant, je la cherchais. Deux bras officieux que je rencontrais m'attirèrent.
Je fus pressé sur un sein doucement agité, une bouche empressée vint chercher la mienne et me rendit ardemment mes ardents baisers.
Aussitôt, j'osai davantage. Loin de m'opposer la moindre résistance, ma belle amie, plus que faible, ne parut attentive qu'à précipiter le succès de mes rapides entreprises.
Le lit de repos entraîna sa chute et la mienne.